15 septembre 1979, CJMF FM entre en onde. Plusieurs styles de radio se sont succédés, plusieurs personnalités. Une chose demeure inchangée, vous, FM 93, 40 ans de radio au cœur de Québec. FM 93 fait parler Québec depuis 40 ans. FM 93. La radio du sport à Québec. Entrevues, analyses, faits marquants. Le monde du sport passé en revue. Voici l'avant-match avec Dan Poo.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 2118. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un bref retour sur notre émission d'hier, l'émission spéciale qu'on vous a présentée hier concernant le lancement de la saison de la NFL. Ça débute d'ailleurs ce soir, je vais vous en reparler dans les prochaines secondes. Ben, c'est possible pour vous d'aller réécouter l'émission d'hier sur le site fm93.com. Tout est là. Une émission spéciale où on a reçu des invités, on a parlé avec les auditeurs aussi. On s'est intéressé au phénomène de la NFL qui lance sa 100e saison ce soir. On lance la saison ce soir par la plus grande rivalité dans la NFL, une rivalité entre les Packers et les Bears. Le match est présenté au Soldier Field à 20h30. C'est la plus vieille rivalité, je dirais pas du sport, mais à tout le moins de la NFL. Ça date de 1921. Tellement qu'en 1921, les Bears s'appelaient les Steelers de Chicago. Ils avaient gagné 20-0 contre l'équipe de Green Bay qui s'appelait déjà les Packers. C'est l'année suivante, en 1922, qu'on a nommé l'équipe de Chicago les Bears. 199e duel entre les deux équipes ce soir. Sachez que les Bears ont gagné en décembre dernier, mais ils avaient perdu 9 des 10 affrontements précédents contre les Packers de Green Bay. Avez-vous regardé le tennis hier? Hey, c'était-tu bon? Ah oui, là, j'ai croisé des collègues aujourd'hui à la station. Elisabeth, dans l'émission du matin, et Jeff, qui coanime le midi avec Paul Raphaël. Hey, Dan, hier, j'ai vraiment eu peur. Mais vous avez eu peur de quoi? Ouais, mais Bianca, elle a perdu la première ronde. Ouais, mais elle fait tout le temps ça, non? Cette année, en 2019, c'est toujours des 2-3 chez les femmes. Bianca Andreescu s'affiche lors de la troisième manche d'un 2-3. C'est 14 victoires et 3 défaites. C'est comme si elle attendait d'être dans le trouble avant de réagir, Bianca Andreescu. Hier, elle a gagné contre la Belge Elise Martens, qui était 25e au monde. Ce soir, ce ne sera pas avant 21h, là. Fait que vous avez le temps de finir les commissions chez Costco puis chez Walmart, là. Sachez que ça ne sera pas avant 21h parce qu'à 19h, la première demi-finale va opposer Svitolina, l'Ukrainienne de 24 ans, qui est 5e mondiale, contre Serena Williams, qui a 37 ans, qui est à un seul titre d'un tournoi du Grand Chelem d'égaler la marque de Margaret Court, qui est de 24. Serena a 23 triomphes en tournoi majeur. Mais Serena n'a pas gagné depuis l'Australian Open en 2017. Vous allez me dire, ouais, Colin, ça fait quasiment 3 ans. C'est sa dernière chance, puis sinon, ça va aller à 2020 pour l'Omnium d'Australie au mois de janvier. Je sais qu'elle a accouché, puis elle a fait une pause du tennis, mais quand même, les dernières fois où Serena s'est présentée en finale, elle a perdu les tournois du Grand Chelem. Ça fait longtemps qu'elle est à 23. Elle pourrait, avec le US Open de cette année, tomber à 24 et égaler la marque de tous les temps. Bianca Andreescu, c'est rafraîchissant de la voir. Elle a 19 ans seulement. Elle est maintenant assurée d'être top 10 mondiale. Peu importe ce qui lui arrive ce soir et ou samedi, ben, elle va finir 9e au classement mondial si elle perd ce soir, 8e si elle perd samedi et 5e si elle gagne le US Open cette année. C'est phénoménal. Elle est assurée de toucher 960 000 $ américains si jamais elle s'incline ce soir. Ce sera plus si elle joue le match de samedi. C'est 1,9 million si elle perd samedi, puis 3,8 si elle gagne samedi. En carrière, jusqu'ici, sur le circuit de la WTA, sachez que Bianca Andreescu a fait 2,2 millions. Mais hier, dans le match d'hier, là, je vais revenir là-dessus brièvement, je pense que le point tournant du match d'hier, c'est au moment où c'était 2-2 à la deuxième manche. Bianca a perdu la première manche. Quand c'est 2-2, elle sert. C'est elle qui a le service. Et à ce moment-là, c'est 0-30. Donc, c'est 30-0, mais pour la Belge. Il y a un échange qui est long. Et à bout de bras, dans le fond du terrain, Bianca Andreescu a réussi à ramener la balle À l'autre bout sur la ligne, s'en est suivi un échange de quelques coups et finalement, la Belge a envoyé la balle dans le filet. C'est venu 15-30 au lieu d'être 0-40. Il faut considérer que si Bianca perd ce match-là, ça vient 3-2 pour son adversaire qui a déjà gagné la première manche. On ne sait pas on en serait où ce soir si jamais elle n'avait pas ramené cette balle d'une façon quasi miraculeuse. Mais après cet échange-là, ça en était fait pour la Belge. Martin s'en est pas remis. Andreescu avait le vent dans les voiles. Elle a clenché cette deuxième manche-là en gagnant 6-2. Et ensuite, elle a gagné l'autre 6-3. Je pense que ça a été le point tournant du match. Sachez que la situation de Connor McDavid, l'excellent joueur des Oilers d'Edmonton, considéré par plusieurs comme le meilleur joueur de la Ligue actuellement, sa situation de santé m'inquiète. Aujourd'hui, on apprend qu'il va peut-être manquer le match d'ouverture. Ça veut dire qu'il va le manquer. Il va peut-être manquer le match d'ouverture. Voyons, on ne dirait pas ça à 3 semaines du début de la saison, quasiment 1 mois. Ça débute le 2 octobre. On est le 5 septembre. Ben, il va peut-être manquer le match d'ouverture. Ça veut dire qu'il va le manquer. Il y a certains spécialistes qui pensent qu'il va revenir seulement au mois de novembre ou décembre. Il y a une blessure importante en un ligament dans les derniers mois. Et c'est pas de bon augure pour Connor McDavid avec les Oilers. Demain, à New York, il y a une rencontre importante entre les dirigeants de la Ligue nationale et les représentants de l'Association des joueurs. On a jusqu'au 15 septembre pour s'entendre pour rouvrir la convention. Une convention qui, en principe, vient à échéance en 2022, mais qui pourrait prendre fin avant. Et si on ouvre la convention, ça va être une bonne nouvelle. Si on n'ouvre pas puis on braque sur nos positions du côté de la Ligue nationale, ça pourrait laisser croire, que d'ici un an ou deux, on pourrait se retrouver avec un autre lockout. Certains diraient un autre lockout, un autre de trop, mais c'est la situation actuellement dans laquelle se trouve la Ligue nationale de hockey.
La CBC à Don Cherry.
Bonjour, Marley Dan.
Dans l'avant-match, on a le coach. Éric Lavigne.
Salut Éric, comment vas-tu?
Ça va très bien toi-même, Dan.
Oui, ça va bien, merci. J'ai intentionnellement gardé un article sur le coin de mon bureau cette semaine. C'est l'article d'Alexandre Pratt dans la presse qui a fait beaucoup réagir. Et le titre, c'est « Quand les stats rendent les parents fous ». Puis quand j'ai lu ça, je me suis dit « Non. Il n'est pas question que je parle de ça en ondes avant jeudi 18h05 pour ma jasette avec Éric Lavigne. » C'est exactement le genre de discussion qui intéresse nos auditeurs et qui te préoccupe autant qu'il me préoccupe. Évidemment, toi, t'as grandi à Sainte-Foy, moi j'ai grandi à Charlebourg. On a à peu près le même âge, puis des histoires de coachs qui ont rajouté des passes sur des buts qu'ils n'auraient pas dû. Il y en avait dans le secteur du Jardin à Charlebourg quand je jouais dans les années 70 et 80. Il y en avait dans ton coin à Sainte-Foy. Il y en avait à Donnacona, il y en avait à Rivière-du-Loup, il y en avait à Trois-Rivières-Ouest, puis il y en avait à Blainville, puis il va en avoir dans 30 ans. On s'entend là-dessus? Par contre, là, ça prend des proportions, je trouve, un peu démesurées. Puis, on se rend compte que finalement, il y a des parents qui sont impliqués dans l'hockey mineur, souvent pour les mauvaises raisons. Tu as lu l'article, je le sais. Peux-tu donner ton commentaire, parce que les auditeurs à l'écoute ce soir attendent ton commentaire au sujet de cet article-là qui concerne particulièrement les statistiques au hockey mineur?
C'est drôle que tu me parles de l'article, parce que je l'avais vu cette semaine là, quand je fais ma tournée de ce qui se passe un peu dans les journaux par rapport à tout le sport. Puis sur, j'aime aussi voir ce qui se passe dans le sport amateur. Puis ça m'a fait bien sourire de voir l'article, parce que c'est, tu l'as dit, là, ça date de très longtemps, cette problématique-là. Mais je suis obligé de te dire que je réalise qu'elle est encore plus grande aujourd'hui qu'elle l'était dans notre temps. Parce que dans notre temps, il y avait une structure de hockey qui était une vraie pyramide. La pyramide dans le sens qu'il y avait le hockey à la base, le hockey participatif, tu montais tranquillement vers le 2A qui venait là au calibre ultime qui était le midget 3A à Sainte-Foy dans le temps.
Ouais.
Les statistiques avaient toujours une importance, mais c'était aujourd'hui, c'est toute la question de la publication des statistiques.
Ouais.
Des gens qui ont essayé de truquer des stats, puis je te dirais plus, des joueurs qui couraient après l'arbitre pour avoir une passe, ça, il y en a tout le temps eu. Les parents avaient moins le contrôle sur le fait de la feuille de match, mon gars, tu as eu sa passe, pas sa passe, parce que c'était pas nécessairement public. Rappelle-toi, si on recule, puis là, le monde va nous trouver vieux, quand on recule, il y a 30 puis 40 ans, les statistiques, là, c'était dans le hall de l'aréna, en arrière de la ville.
Oui, c'est vrai.
Le statisticien allait mettre avec des punaises les statistiques du dernier mois ou de la dernière semaine. C'était jamais le lendemain d'un match.
Non.
C'est que tu avais le temps de décanter avant de te mettre à courir après ta passe, puis à te mettre à courir après ton but, puis réaliser que l'arbitre l'a oublié.
Ouais.
Ou l'arbitre, quand tu as dit « mets-moi une passe », puis il est tanné que tu cours après, puis il te fait croire qu'il l'a mis, mais il l'a pas mis. Ça, là, dans le temps, c'était pas un problème. C'était moins un problème. Aujourd'hui, avec Internet, c'est complètement fou, là. C'est complètement fou. Les parents veulent aller voir les stats. En pensant que les stats vont changer le fait que leur jeune va avoir une chance de jouer dans le midget 3A ou junior majeur ou éventuellement pro, ce qui est totalement erroné. Parce que je lisais les commentaires d'Éric Bélanger, je lisais les commentaires de Marc-André Dumont. C'est tout à fait vrai. Les coachs, les dépisteurs, très souvent, ne savent même pas les stats exacts. Comme coach, je voyais qu'Éric Bélanger dit l'an passé, je ne savais même pas rendu à mi-saison qu'il y avait tant de points. On n'est pas rattaché comme coach aux statistiques précise. Et dans le recrutement, c'est pas ça qui va faire la différence, parce que quand tu vas voir un joueur, tu le sais s'il a performé ou non, tu le sais s'il y a eu un but ou une passe, mais c'est pas les stats qui rentrent. Mais c'est tellement fou que les listes qui sortent présentement, et en plus, il y a un site qui fait le classement des équipes au Québec, et là, qui
le
fait des comparatifs des joueurs, ça n'a pas de bon sens. Comment peux-tu savoir que le club du Lac-Saint-Louis, peux-tu vraiment te classer en avant du club du Bas-Saint-Laurent quand ils ont même pas encore joué un contre l'autre, quand ils ne jouent pas dans la même ligue, quand ils ne jouent pas contre la même force d'adversaire? Ça donne quoi, ce classement-là? Quand j'entends quelqu'un me dire « on est classé 8e au Québec », ben non, parle-moi que tu es classé 8e dans ta ligue.
Oui.
Parle-moi pas que tu es 8e au Québec. De la même façon, dis-moi pas « mon gars est rendu 12e scoreur au Québec ». Hey, si tu joues pas dans la même ligue que tous les joueurs de ton âge, c'est complètement fou. Puis les parents ne mesurent pas à quel point c'est si peu important. On le sait, c'est qui compte 3 buts. Quand je coachais dans le hockey mineur, c'était Xavier Delisle, moi, qui comptait 3 buts à 3 games.
Oui.
Xavier Delisle, il a joué pro, puis il n'a pas eu besoin de courir après ses buts puis ses passes. Puis les dépisteurs n'ont pas eu besoin de venir me voir, me demander ses stats exacts. Tout le monde savait qu'il avait une chance de jouer pro, puis qu'il allait jouer un jour, puis il a joué un jour pour le Canadien, puis il a scoré son but. Je ne me suis pas rappelé le nombre de tours du chapeau qu'il y a eu dans le mineur, mais il y en a eu un paquet de buts de compter quand il était dans l'hockey mineur. C'est qu'au bout de la ligne, là, faut que les parents arrêtent de se faire des accroires, faut que les parents arrêtent de penser que les statistiques vont faire en sorte qu'il va être invité dans le 2A ou invité au camp du midget 3A. Il y a d'autres qui ont mis en place des camps d'évaluation, qui n'est pas tout à fait la formule que je souhaiterais, là. C'est souvent des machines à argent, mais ça, c'est un autre débat.
Ouais.
Mais les joueurs là qui ont à être invités, inquiétez-vous pas, c'est pas parce qu'ils se sont fait voler une passe par l'arbitre ou que le marqueur a oublié de le mettre que votre gars ne sera pas invité midget 3 s'il mérite d'être invité.
Exact. Puis là, évidemment, je t'écoutais parler, puis il me venait en tête toutes sortes d'exemples rattachés à ce que tu racontais. Tu sais que depuis l'année dernière, j'arbitre au hockey mineur.
Oui.
Et je m'efforce quand je suis l'arbitre en chef. Évidemment, quand je suis juge de ligne, ben, on ramasse la puck, on s'en va au centre, puis on le redonne à l'arbitre en chef. Puis on s'assure entre les bancs qu'il n'y a pas de chicane entre les deux équipes, tu sais. Mais quand je suis arbitre en chef, Éric, je te jure, là, j'ai fait 62 matchs l'année passée. C'était pas tous des matchs arbitre en chef. Je vais m'efforcer de la même façon cette année parce qu'à l'époque où je jouais, je trouvais ça le fun qu'on annonce dans l'aréna le vrai marqueur du but puis les vraies passes. Donc, si j'ai suivi la séquence, puis je sais que c'est le 19, du 47, puis du 14, je suis capable d'aller dire ça au marqueur. Par contre, si pour une raison X, je regardais en avant du but un peu plus parce que ça brassait entre un défenseur et un attaquant, puis j'ai perdu finalement, où il y a eu une montée à l'emporte-pièce, je me souviens pas trop qui a fait la passe au petit numéro 18 qui a scoré, mais quand les jeunes vont faire la file pour aller donner le high five au banc de leur équipe, je vais demander à un des gars, hey, « excuse, qui a fait la passe au 18, juste pour être certain, avant d'aller au banc des chronomètres. » Je suis à peu près convaincu, pour l'avoir vécu l'année dernière, que c'est pas tous les arbitres à Québec qui fonctionnent de ma façon. Il y en a qui s'en foutent un peu de donner n'importe quel but, n'importe quelle passe. Mais moi, je le fais pour les kids. Je trouve ça important.
Ben, c'est plus qu'important, puis je félicite ce que tu fais là, puis j'espère que plusieurs arbitres le font. Parce que c'est pas... c'est pas démontrer de la faiblesse pour un arbitre d'aller voir le joueur, de dire qui a la passe, ou qui a le but, parce qu'il y a des cas, des fois, t'es dans les estrades, tu sais même pas qui a compté le but. Imagine l'arbitre qui, lui, est en mouvement.
C'est ça.
C'est que c'est pas démontrer de la faiblesse, au contraire, par respect pour les joueurs, surtout quand tu dis que c'est annoncé au micro, mais je trouve ça brillant, puis je félicite l'action, puis je l'encourage, parce que justement, ça va être plus simple au lieu d'essayer de faire des corrections par la suite.
Mais Eric,
puis qu'au bout de la ligne.
Je viens de dire que je le faisais pour les kids. Je t'ai jamais dit que je l'avais fait pour les parents.
Ben, j'espère que tu le fais pour les kids.
C'est ça la différence.
J'espère qu'on arbitre pour les kids.
Ben oui.
J'espère qu'on coach pour les kids.
Exact.
On coach pas pour les parents, on coach pour les joueurs, puis on est arbitre pour les joueurs pour qu'il y ait un match qui se déroule dans le sens du monde. C'est qu'au bout de la ligne, on le fait tout pour les kids. On le fait tout. Toi, tu n'arbitres pas en pensant que tu vas monter dans la Ligue nationale.
Non,
là. Je m'excuse de péter ta ballonne aujourd'hui.
Non,
c'était tes aspirations.
Ben
là. Mais au bout de la ligne, on est tous là pour les jeunes. Un coach qui s'implique pour aller coacher, un coach qui a un arbitre qui s'implique pour aller arbitrer, au prix que ça paye, puis à se faire tirer après. Mais j'espère qu'on est là, oui, parce qu'on aime le hockey, mais d'abord et avant tout, parce qu'on veut que les jeunes aient la chance de jouer, puis ça en prend des coachs, puis ça en prend des arbitres. Mais les statistiques, là, ça peut-tu être assez loin dans la liste, s'il vous plaît? Ça peut-tu pas faire partie des priorités quand vient le temps des fameuses stats? De dire, parce que les fameuses stats, là, ce que ça amène, c'est des cristis de jeux de comparaison. C'est que les coachs embarquaient pas là-dedans à valoriser c'est quoi les stats, puis c'est quoi les résultats, puis on rendait à combien de points. Pas besoin de ça. Laissez-la s'amuser, laissez-la jouer, laissez-la se développer. Mais inquiétez-vous pas, entre eux autres, là, ils savent s'ils ont plus de points que l'autre, puis ils savent s'ils sont meilleurs que l'autre ou moins bons que l'autre, puis ils s'en offusquent même pas. C'est souvent pression dans l'auto, puis la pression autour de la table en soupant, parce qu'au party de Noël, il faut que je dise à mon beau-frère, mon fils est rendu à tant de buts.
Ça,
on est-tu dans le champ gauche, là? Et ceux qui ont à se rendre dans la Ligue nationale vont se rendre. Il n'y en a pas beaucoup.
Non.
Vont se rendre dans la Ligue nationale. Ceux qui vont se rendre dans le midget 3, c'est rare qu'il y a des grosses erreurs, puis qu'il y a eu des mauvaises sélections, puis tout. Il y en aura toujours. Mais au bout de la ligne, là, je pense pas qu'il y a eu trop de vols, puis la plupart du monde a joué dans le bon calibre.
OK, parfait. Avant de te laisser, je veux te parler justement des camps de sélection. Tu viens de parler du junior majeur, du midget 3, de la Ligue nationale. C'est le camp des recrues qui s'est amorcé aujourd'hui pour le Canadien. Le camp des recrues est synonyme avec le Canadien du camp de ceux qui peuvent donner de l'espoir aux journalistes de Montréal, qui en ont grandement besoin, et aux partisans du Canadien. Ceci dit, tu as dirigé des équipes de hockey toute ta vie. Dans quelle mesure... Et je vais prendre l'exemple du Canadien actuellement. Puis ça peut aussi se transporter, Eric, aux équipes, les gens qui sont à l'écoute de l'émission ce soir-là. Votre fils vient de faire un camp au niveau scolaire, il a été coupé. Il vient de faire un camp au niveau 3 relèves, il a été coupé, il va jouer 2A finalement. Ma question pour toi ce soir que j'ai, c'est dans quelle mesure les camps d'entraînement sont si importants pour la sélection d'une équipe?
Mais les camps d'entraînement, c'est parce qu'il faut donner différents termes. Il y a des camps d'évaluation, il y a des camps d'entraînement, puis il y a des camps de sélection. Le camp du Canadien, là, c'est un camp d'évaluation où tu vas mettre les gars en forme, tu vas travailler, et ça va être de l'évaluation parce que quand ils vont partir de là, ils savent des Canadiens, je l'ai fait, le camp des recrues du Canadien pendant 3 ans, là. Tu sais déjà tous les joueurs vont se retrouver dans quelle équipe. Tu sais déjà qui va retourner à son club à Victo, qui va jouer dans la Ligue américaine, qui a une chance de jouer Canadien.
Donc, l'équipe est faite en date d'aujourd'hui, selon ce que tu me dis.
Oui, elle est faite à pas grand-chose. Presque.
À un joueur près.
Pas grand-chose à régler, là.
Okay.
À un ou deux joueurs près, le Canadien, l'équipe est faite, là. Okay. Regarde la signature des contrats.
À cause des contrats, dans ce cas-ci. OK. Parfait.
Et voilà. Okay. Oui, mais au-delà de ça, même dans le temps que les contrats étaient pas. C'était pas aussi serré au niveau des contrats. Ce que ça sert, ces camps-là, exemple, prenons le camp des recrues du Canadien, le début de ta question,
ouais.
Ça sert à quand ça va être terminé que tu sois capable de dire à tel joueur, mais t'as ça à corriger, puis t'as ça à travailler, puis tu vas t'en retourner dans ton équipe, puis on veut que tu travailles là-dessus. Les camps de sélection, les fameux matchs d'exhibition qu'il va y avoir pour Canadiens, ou je dirais plus junior, parce que dans le junior, tu vas plus évaluer tes joueurs comme dans le midget 3, parce que l'équipe est moins faite en forme de contrat comme dans la Ligue nationale. Mais tu faut que tu sois en mesure de dire, j'utilise mes matchs pour faire de la sélection parce que j'ai à jouer entre 2 ou 3 joueurs. Ça joue uniquement entre 2 et 3 joueurs. C'est rare des cas comme Victor Mété il y a 2 ans, qui lui est venu totalement mêler les cartes. C'est rare que ça arrive. Aujourd'hui, là, avec les auditeurs, on pourrait demander à tout le monde, envoyez-nous votre line-up. Pas avec votre cœur. Le line-up que vous pensez que le Canadien va avoir le jour 1 la saison régulière. Puis je te le dis, à 90%, on se trompe pas personne. Okay. On se trompera pas personne. Et ce qu'il faut, c'est que quand il y a des retranchements, si on parle d'hockey mineur présentement, ce qu'il faut, c'est que les athlètes qui soient coupés, mais que les entraîneurs aient eu l'honnêteté de leur expliquer pourquoi, leur dire « va jouer dans quel calibre, travaille de telle façon ». Si les parents veulent être là pour écouter les explications, parfait, parce que comme coach, tu as des explications à donner, donne-les. Explique-les ta décision et va surtout dire aux jeunes « travaille là-dessus, améliore-toi là-dessus » et c'est à ça que doivent servir les camps d'entraînement, les camps d'évaluation versus uniquement des camps de sélection. Sélection, c'est pour faire les équipes, mais je pense que les jeunes doivent savoir sur quoi travailler et doivent surtout se faire dire pourquoi ils ont été coupés.
Une fois qu'il est coupé, on ne pourra pas juste dire aux petits gars puis oui, de A, cette année, tu étais juste pas assez fort pour notre équipe. Pourquoi faut essayer de le réconforter en lui disant ce qu'il faudrait qu'il améliore alors qu'on sait très bien qu'on ne le rappellera pas une fois l'hiver pour venir remplacer?
Ah, mais c'est deux choses. C'est le joueur que tu penses peut-être rappeler ou le joueur de première année envers qui tu as aspiration que l'année d'après, il puisse jouer dans le 2A, exemple, s'il a été coupé dans le 2B.
OK.
Je pense que tu peux y donner de l'espoir. Mais pour le reste, tu t'éternises pas dans des explications qui finissent plus. Tu peux dire à un joueur, il n'y avait pas de place à ta position, tu n'étais pas dans nos 6 premiers, tu avais plus de temps de glace dans l'autre calibre, éternise-toi pas.
Okay.
Mais pour un jeune, des fois, qui est première année, que tu veux lui donner espoir l'année d'après, et si tu as vraiment des visées, tu crois vraiment sincèrement qu'il y a une chance de jouer. Tu sais, junior majeur, quand tu coupes un gars midget 3, là, si tu veux, dans, tu l'as repêché, t'as espoir que l'année d'après, il puisse monter dans le junior pour faire l'équipe. Faut-tu lui dire sur quoi travailler? Puis s'il a espoir d'être appelé, faut qu'il sache sur quoi travailler. Mais t'as tout à fait raison de penser que donne pas de faux espoirs, puis tu peux dire à quelqu'un, t'étais pas dans nos 6 premiers, ou t'es pas dans notre groupe qui va pouvoir jouer cette année. Va t'amuser dans l'autre calibre, puis tu vas avoir du plaisir.
OK. Change ta carte d'affaires. Au lieu de t'occuper des équipes sportives au Cégep Garneau, tu deviens en charge de tout l'hockey mineur de la région de Québec à compter de demain matin. Puis on se transporte au 15 juin, donc il n'y a pas une équipe d'hockey mineur qui est encore faite. Est-ce que tu confies la réalisation des équipes aux entraîneurs de chacune des catégories ou à des conseillers techniques comme ça se fait aux quatre coins de la ville?
Au mix des deux. Ça prend une formule hybride.
Okay.
Ça prend l'input des gars qui sont sur la glace. Tu dois respecter l'opinion des entraîneurs qui ont été là, l'opinion des entraîneurs qui vont être là, parce que moi puis toi, Dan, ça se peut qu'on n'aime pas le même genre de joueur. Ça se peut que tu aimes plus les joueurs avec de la vitesse. Ça se peut que j'aime plus les joueurs avec de la finesse. Ça se peut qu'un autre coach préfère de la robustesse. C'est qu'il faut que les coachs soient autour de la table. Et faut respecter aussi que ça prend une observation externe pour justement éviter que des clubs soient trafiqués ou soient travaillés en groupe de parents parce qu'il y a encore des parents. Puis heureusement qu'il y a encore des parents qui coachent.
Oui.
Mais faut éviter ces situations-là où c'est un groupe de parents, d'amis qui se mettraient le joueur ensemble. Moi, je pense que ça prend en formule hybride, puis ça prend autour de la table les deux groupes. Faut que les entraîneurs soient impliqués, puis il faut que les directeurs techniques qui existent de plus en plus, mais soient impliqués également. Je crois pas ni l'une ni l'autre des deux formules s'ils sont dans un silo puis que les deux groupes se parlent pas. Moi, je crois que les deux doivent se parler. Il faut servir l'expertise des deux pour justement arriver au meilleur résultat possible.
OK. Puis pour répondre à ta question, tu sais quel genre de joueur j'aimerais? Moi, si on avait sélectionné des joueurs pour faire une équipe, puis oui, bantam ou midget, je prendrais des joueurs qui se replient défensivement, ce que j'ai pas fait encore en 42 ans d'hockey.
Oui, mais c'est pour ça que tu n'as pas de stats. Il faut que tu fasses attention, faut que tu fasses parler tes stats en plus.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas le choix de la mettre dedans parce que dans ma zone, je peux t'annoncer, on joue à 5 contre 4.
Si tu tombes sur un coach qui regarde les plus et moins, tu vas être trop dans le even.
Ah, je vais être dans le trou, pas à peu près. Oui, c'est ça. Allez, merci, Eric.
OK, salut, Dan. Merci
salut.
À toi.
Bonne soirée. Eric Lavigne, le coin du coach, chaque jeudi dans l'avant-match.
Au FM 93. L'avant-match.
De retour après la pause.
Super promotion de fin de saison chez Isolation Beauport. On paie les taxes sur notre thermopompe de marque Movair 12 000 BTU qui chauffe jusqu'à moins 20 degrés. Garantie 10 ans sur les pièces. Informez-vous, Isolation Beauport.
Isolation Beauport.
418-663-6906.
Bon, ben, je vais faire un bout, moi.
Hey, pas, t'es-tu correct?
Hein?
Ben oui.
Mais t'as l'air un peu blême.
Hein?
Ben oui, t'es blanc. Hein? Va te voir dans le miroir de la chambre de bain.
Écoute d'eau.
Hey, mais t'as rénové ta salle de bain, toi?
Ouais, pas pire, hein?
Hey, mais, hein? Mais, j'suis pas blême pas en tout.
C'est correct d'être fier de ses rénos. Jusqu'à mercredi chez Rona, obtenez 20% de rabais sur tous les meubles de salle de bain, toilettes, baignoires et douches. Avec Rona, il y a de quoi être fier. Les conditions s'appliquent.
Paquette Productions présente Legends Show. Des hommages à Buddy Holly.
Baby, baby, you be true.
Patsy Cline.
Crazy, I'm crazy for feeling.
Elvis Presley.
We're caught in a trap. I can't walk out.
Et un soupçon de Motown avec les Tonettes, accompagnés du Rockin' Royals Show Band. Samedi 5 octobre au Capitole. Informations et billets sur lecapitole.com.
Changer un chauffe-eau soi-même, ça peut être compliqué. Heureusement, chez Hydro-Solutions, c'est notre métier puis on aime ça pour vrai. Avec une location de chauffe-eau à partir de seulement $9,49 par mois, nos experts se chargeront de vous faire la livraison et l'installation sans frais. Ils se feront même un plaisir de repartir avec votre vieux chauffe-eau. Pour profiter de l'offre, appelez Hydro-Solutions au 418-353-0077 avant le 30 septembre. Hydro-Solutions, on livre, on installe, on récupère avec les experts de Boucher-Lortie. Certaines conditions s'appliquent.
C'est la grande liquidation de vélos chez EcoSport. Des rabais jusqu'à 40% vous attendent sur des vélos neufs et usagés. Hybrides, de montagne, de route et même électriques. Mais faites vite, la vente se termine ce dimanche. EcoSport, Québec et Lévis.
FM 93. Promo. Le 93 pourrait faire de vous un gagnant.
On commence notre saison des remparts comme il faut, dans une loge du Centre Vidéotron. Inscrivez-vous sur fm93.com pour gagner un des 10 billets dans une loge pour voir les remparts face au Husky de Rouyn-Noranda le 27 septembre.
Restez branchés au FM 93 pour votre chance de gagner. À Québec, les tripeux de sport ont le bon réflexe. L'avant-match. FM 93. Ça me parle.
Voilà, c'est tout pour l'émission de ce soir. Je vous rappelle que le pool d'hockey que j'organise au Saint-Hubert du boulevard Laurier, ben c'est possible pour vous de vous inscrire. 418-650-1234. 418-650-1234. Déjà plus de 150 personnes sont inscrites pour ce pool. On va être encore autour de 400 personnes lundi, le 30 septembre prochain, au Saint-Hubert du boulevard Laurier. Vous avez deux options pour ce soir. 20h30, Packers-Bears, ou encore à compter de 21h, ou pas avant 21h, on va dire ça comme ça, l'affrontement demi-finale entre la Suissesse Belinda Bencic, 12e raquette mondiale, contre la coqueluche pour nous au Canada, l'Ontarienne de 19 ans, Bianca Andreescu. Demi-finale du US Open quand même, faut le rappeler. C'est tout pour l'avant-match de ce soir. Je vous dis bonsoir. Merci.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93. Ça me parle.
Chez Kia Lévis, on ne vend pas de voitures. On vend la paix d'esprit, la sécurité, de la confiance et des road trips mémorables. Avec Kia Lévis, vivez le moment.
C'est la populaire vente Expo Tanguay. Et pour l'occasion, nos magasins débordent de nouveautés. Nous payons les deux taxes et payer jusqu'à 24 versements sur les meubles, les matelas et la décoration. Ensemble de salle à manger, 5 morceaux, $999. Un rabais de $100. Ou sofa, chaise longue se transformant en lit à $849. Un rabais de $120. Livraison gratuite au Québec. La populaire vente Expo Tanguay. C'est l'événement à ne pas manquer.
Vous changez d'auto? ForceOccasion.ca veut acheter votre véhicule actuel, peu importe la marque. Et on vous offre jusqu'à 1000 $ de plus que la compétition. 1000 $ de plus en plein dans le mille. Visitez ForceOccasion.ca pour connaître instantanément la valeur de votre véhicule actuel.
Paquette Productions présente Legends Show. Des hommages à Buddy Holly. Baby, Patsy Cline.
Crazy, I'm crazy for feeling.
Elvis Presley.
We're caught in a trap. I can't walk out.
Et un soupçon de Motown avec les Tonettes, accompagnés du Rockin' Royals Show Band. Samedi 5 octobre au Capitole. Informations et billets sur lecapitole.com.
Doyon Després a demandé à Philippe comment il se sentait après l'achat de son barbecue.
Je renais de mes cendres, tel un phénix, et j'accomplis des merveilles, des chefs-d'œuvre, des miracles.
Doyon Després vous équipe comme un pro, que vous soyez chef ou pas.
Le Rallye Merveille permet à chaque enfant de s'accomplir, malgré leur situation d'handicap multiple et sévère, en offrant des services adaptés et novateurs. Chaque don fait la différence. LaurentLesMerveilles.ca.
Découvrez une table s'inspirant des richesses de la terre et des profondeurs des océans. Découvrez le Ophélia Terre et Mer. Des viandes vieillies 55 jours, des poissons frais, le homard, les fruits de mer, un menu du jour délectable et abordable. À l'Ophélia, savourez les plats les plus raffinés dans un environnement au design impressionnant, rappelant un yacht de luxe. Service de valet gratuit en tout temps. Une expérience terre et mer qui se vit à un seul endroit. à l'Ophélia sur Grande Allée. Réservez dès maintenant, visitez restaurantophélia.com.